14h, dans les couloirs vides de la maison de la radio, en ce premier jour de l'année 2020, Isabelle est venue se recueillir dans le bureau de Par Jupiter.
Salut Isabelle.
Salut les amis.
Dis donc, c'est sympa d'être passé.
Et oui, je suis comme le temps, je passe.
Oh, c'est beau, dis donc.
Et là, tu médites ?
Oui, je préfère méditer que médire.
Tiens, 2020 commence vachement bien.
D'ailleurs, vous savez que cette année sera celle des femmes, bien sûr, n'est-ce pas, Alex ?
Encore ? Mais vous en avez pas marre, les gonzesses ?
Et en 2018, on a eu MeToo. En 2019, Adèle Haenel.
Exactement, c'était formidable, ces prises de position.
Parlant de position, moi, il y en a que je préfère.
Oh là 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 là. En 2019, Charline, on a réaffirmé la puissance des femmes. En 2020, on l'a consolidée. Ouais. On crée un monde plus juste.
Isa, je suis à fond avec toi.
Hein. Moi aussi, je suis d'accord avec vous, les meufs. Hein. D'ailleurs, pour la peine, aujourd'hui, on va réécouter la meilleure émission de l'année dernière. Et devine avec qui ?
Avec qui ?
Avec un mec. Bah voilà.
Je sens que ça va pas être ton année 2020, Alex.
Bah écoute, c'était avec Eric Elmosnil. Tiens.
C'est vrai qu'il avait tout explosé. Hein, quand
oui, mais il venait parler d'une pièce de Marivaux.
Marivaux que j'adore parce qu'il a dit. Il y a beaucoup de femmes qui seraient fort aimables si elles pouvaient oublier un peu qu'elles le sont. Vous avez un an pour méditer ça.
Oppresseur, va.
Salaud. Hashtag MeToo. France Inter, bonne année Alex.
Et bonne année Charline, le meilleur à vous et à notre couple radiophonique 2020.
La start-up de la radio publique vous adresse donc ses meilleurs vœux à vous, auditeurs, puisque cette année verra arriver peut-être la 5G, l'iPhone 12, la COP26 et les 42 CDD qui vous attendent. Et tout ça, on le vivra ensemble, n'est-ce pas Alex ?
Together.
Voilà, together. Repartons donc ensemble sur la route de la rigolade jusqu'à ce que mort de rire s'en suive. Et d'ailleurs, pour ambiancer cette première émission de l'année, on a choisi à un moment déjà culte, au point qu'on a choisi de vous le rediffuser en totalité. Une heure de folie avec l'acteur Eric Elmosnino. D'ailleurs, l'émission avait démarré sur un problème technique.
Voilà.
Un pain technique. Et ça, c'est toujours rigolo.
Ça annonçait un petit peu la suite.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, ne soyez pas surpris. On vous l'a laissé. Voilà. C'est validé, Alex ?
C'est validé, on y va.
Allez, c'est parti !
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour la France Inter. Si, c'est une surprise.
C'est
parce
la grève,
que
c'est la grève du générique.
On a perdu le générique.
Et voilà, c'est la CGT générique. qui a
voilà. Le chant ou pas le générique a peur pour sa retraite. Et donc.
Tout ça, c'est très artisanal aujourd'hui.
Bonjour la France Inter. Bienvenue dans la start-up de la radio publique.
Ouais. C'est très génial.
Attention, 3-4. On recommence. Bonjour pour du vrai, la France Inter. Bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Un bad buzz n'arrive jamais seul. Et voici les thèmes. La faillite de Thomas Cook provoque le rapatriement le plus massif depuis la Seconde Guerre mondiale, paraît-il. Sauf que cette fois, on rapatrie des gens en short et en tongs. Un signe des temps, sans doute. Rien de grave, mais beaucoup de déception. Là, on n'a pas de son.
Bah
non
oui, bah, bien
là,
sûr.
C'est la CGT.
C'est pas grave, vous en avez besoin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ?
Eh ben, un piéton,
plus. Hein ? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Allez, faites chauffer le diesel, on a besoin de son. Tous les supporters de foot n'entendent pas se laisser taire. Le gouvernement exige une tolérance zéro dans les stades pour les slogans homophobes. Certains footeux y voient une nouvelle attaque des élites contre le peuple. La ministre des Sports vous dirait que c'est quand même beaucoup plus calme dans la natation.
Ta femme te porte à bout de bras pendant que tu passes ta vie à la piscine à faire tes trucs de ta fiole. Tu vas devenir le champion du monde des PD en plus.
Voilà, l'émission va être interdite. Et enfin, ce sujet est passé à la trappe hier et pourtant important, le statut des maquilleuses dans le cinéma. Certaines d'entre elles se qualifient de prolétaires du cinoche quant à travailler avec certains acteurs ou certaines actrices. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de pénibilité ?
Ça va, c'est pas trop vulgaire, ça va ?
Même dans un porno amateur albanais, tu serais pas vulgaire, Sophia Le Coq.
Alex Vizorek.
Oui,
qui compose la triplette
moi,
du jour ?
Moi, je suis là, bien à l'heure, au taquet, pour vous présenter la belle équipe du jour à 17h20. Celle qui vient du nord, tout en étant plutôt à l'est, c'est Constance.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
De quoi on va parler ?
Je vais développer une théorie scientifique. Merci de bien garder les mains à l'intérieur du véhicule.
Très bien. À 17h30, celui dont le business consiste à entraver le business des autres.
Oui.
C'est vous, Guillaume Meurice, bonjour.
Et bonjour à tous. Et ben, je suis allé à un grand congrès du business, justement, pour savoir si au niveau de notre survie sur Terre, il serait possible de moins consommer.
C'est foutu. Là, c'est mort.
Ouais, bon, c'est ce qui me semblait. C'est mort, a priori.
Et enfin, à 17h40, évidemment, c'est faux quand je dis qu'elle lit un livre entre deux verres de pinard. Non, non, non. Elle boit un verre de pinard entre la lecture de deux livres. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour, Alex.
De quoi on va parler?
Eh bien, je vais faire l'agence de voyage, hein, puisque Thomas Cook y plante. Ah oui. Je vous emmène aux Caraïbes.
Très bien, il y a du taf.
Très bien. Et voici celui dont l'esprit va voler au-dessus de notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
C'est lui.
Vous êtes.
C'est moi qui donne mon nom.
Oui.
Eric Esmolina.
Alors, on est d'accord.
Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Il y a tout qui bug dans cette émission, même l'invité. Bienvenue, Eric Elmosnino.
Oui, bravo.
Pas mal. En même temps, ça s'appelle Vanhoenacker.
Bravo, hein, c'est de la moquerie pour le début de l'émission, là, non?
Non, elle l'a bien dit, elle l'a bien dit.
C'est vrai. Alors, Juliette a eu la bonne idée de vous donner un bonbon pendant le générique.
Ouais. Alors, il s'est servi dans mes affaires.
Pris. Je l'ai pris, elle m'a dit oui. Donc, je le crache?
Non, 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 allez-y. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous êtes sur scène en ce moment dans l'heureux stratagème de Marivaux, dans une mise en scène de Ladislas Chola, avec Sylvie Testu, avec Suzanne Clément, avec Jérôme Robard, que des comédiens qu'on adore au théâtre Édouard VII. Alex Vizorek, vous êtes allé voir Eric Elmosnino sur scène.
Tout à fait, je suis allé voir Marivaux, évidemment. L'heureux stratagème, je vous la fais courte, oui. le point de départ. La comtesse, Sylvie Testu, tombe amoureux en un regard d'un beau gascon, Damis. Dorante, qui voulait la comtesse, c'est vous, est très malheureux. Et la marquise, Suzanne Clément, qui voulait Damis, est très malheureuse. Et donc, il va falloir que ces deux personnages trouvent un heureux stratagème pour faire revenir le désir des deux autres. Je pense avoir extrêmement bien pitché.
Dit comme ça, ça fait super envie d'y aller.
Bah c'est Marivaux.
Ouais, si on a 8 ans, ça fait hyper envie d'y aller.
Mais quelque part, c'est ça. Marivaux, c'est toujours assez simple.
C'est très sexuel, hein.
C'est sexuel. Et on apprend des choses. À un moment, la comtesse dit l'infidélité est un devoir.
Ah, ça, Alex, il a retenu ça.
Je peux vous dire que je l'ai noté, cette phrase-là.
Pas forcément la scène des autres, moi.
Non, mais c'est ça, Marivaux. C'est-à-dire que le désir, au fond, dans cette histoire, parce que c'est de ça qu'il est question, de faire créer le désir chez les autres, c'est totalement intemporel. Et la simplicité de l'histoire n'enlève rien à l'écriture de Marivaux et à l'envie de savoir ce qui va advenir de ces personnages.
C'est ça.
C'est ça qui...
Moi, j'attendais la question et je me suis dit, ah ouais, peut-être c'est ça.
Non,
on veut savoir quelque chose, mais quoi?
C'était...
Tu veux savoir si c'est intemporel?
Si ce côté intemporel, ça vous plaît?
Est-ce que c'est intemporel?
Ça me plaît énormément, moi. Non, mais sérieusement, j'ai un peu envie de dire n'importe quoi.
Oui, j'ai l'impression, mais j'ai d'autres questions.
Non, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est vous un peu aussi, hein, c'est votre côté un peu, je sais pas.
J'avoue que c'est léger pour l'instant.
Oui, vous n'êtes pas crédible. Alors, posez une question
j'ai
sérieuse.
J'ai une vraie question, parce que vous avez joué beaucoup les grands auteurs, Shakespeare, Molière, Tchekhov, Musset. Ouais. Cette langue de Marivaux, en quoi elle est différente des autres et en quoi elle est facile ou difficile pour un comédien?
Là, il va moins faire le malin.
Là, masterclass.
Là, c'est fini, là.
Allez, masterclass.
C'est terminado. Non. Je sais pas. La vérité, c'est que c'est pas si facile, oui. C'est vrai. Tu sens qu'il a voulu faire un peu compliqué, notre ami, au lieu de dire les choses simplement. Mais c'est quand même assez magnifique. Donc, du coup, effectivement, on raconte toujours les mêmes histoires. Voilà. Les amoureux est conduit, et puis t'es fou de quelqu'un, donc t'as envie de la reconquérir. Mais avec une écriture, avec une langue, voilà, un tout petit peu dingue.
Parce que donc là, vous avez répondu à ma première question.
Ah d'accord, ok.
En éludant la seconde, cette langue dingue. Parce qu'on a vu Michel Escaut pour parler de Feydeau. Et l'écriture de Feydeau, on parlait du côté millimétré. Chez Marivaux, il y a plus de respiration, il y a plus de plaisir d'acteur et moins de...
Non, il y a un plaisir dingue à jouer Feydeau. Enfin, j'espère que Michel a du plaisir à jouer Feydeau.
Non, c'est il disait qu'il
génial.
Se faisait un peu chier.
Vous l'avez joué aussi il y a pas si longtemps.
Ouais. Mais Marivaux, en fait, ça demande une concentration. Moi, c'est ça que j'ai découvert un peu. Voilà. Plus, par exemple, que pour Molière, que pour d'autres langues, ça demande une concentration incroyable. C'est une partition. Voilà. C'est une partition. Il faut être hyper précis. Alors, on l'est pas tout le temps, hein. On l'est pas. On commence seulement, donc.
Attendez peut-être 2 mois avant d'aller voir la pièce.
Non, attendez, moi, j'ai pas constaté.
Non, n'attendez pas, non.
Donc on attend de la précision. De ses partenaires de jeu.
Je vais me faire défoncer. Moi, ouais. C'est le mec qui entend après. Ouais, attendez avant de venir. Non.
T'es
venu pour un peu dire aux gens venez. Alors, donc non. Ouais.
On attend de la précision de ses partenaires de jeu aussi.
Alors... Oh oui, moi j'attends plus rien de mes partenaires.
Vous non, êtes
franchement, ils sont lamentables.
Hein,
c'est lamentable. Mais je suis là pour tenir la baraque, ça va.
Depuis 88, vous n'avez presque pas quitté le théâtre.
Absolument.
Vous êtes devenu star de cinéma, on vous connaît pour ça, mais vous avez
tout le temps joué en alternant les grands auteurs et les contemporains. Les contemporains.
Bah oui, si, y a
grands, alors on va dire les classiques. Non, je vous dis. En fait, vous êtes venu pour me pourrir l'après-midi, El Mostino.
Un petit peu.
Moi, je l'avais pas arrivé.
Un petit peu.
Moi, j'ai
je fais ce que
pièce.
Je veux.
Moi, j'allais dire au Jean-Diasco, moi. Donc, quand il dit du Marivaux, et ben, c'est bien. Donc, voilà. Ça, je vais la faire voilà. La promo, moi.
Voilà,
parce
voilà,
que sinon, dans la vie, humainement, on voit bien que c'est une saloperie.
Bien sûr. Bah oui, mais faut pas m'inviter.
Alors, dernière question, juste par rapport au personnage féminin.
Oui.
C'est eux qui tiennent les ficelles. C'est en ça qu'elle est très contemporaine.
C'est elle, du coup, alors.
C'est eux, les personnages.
Voilà, c'est ça.
Le personnage.
Mmh, c'est ça, voilà.
Jusqu'au bout.
Oui, c'est
jusqu'au bout, il va me
non, non, mais c'est important, le français. C'est important.
Charlie.
Alex, vous qui voyez beaucoup de théâtre, oui, vous êtes revenu très enthousiaste.
Moi, j'aime bien quand on joue les grands textes parce que, évidemment, il y a une espèce de certitude. Ici, ils l'ont changé d'époque. On est plutôt dans côté Gatsby, le magnifique.
On est dans les années 20, 20, 30.
C'est à moi qu'elle a posé la question.
Ah, pardon.
Vous, c'est fini.
Oui, mais c'est moi qui vais répondre. Non, mais c'est Downton Abbey, c'est cette ambiance-là, quoi. Mm-hmm. Donc, non, et pour être sérieux deux secondes, je crois que le spectacle est vraiment très beau aussi visuellement. Je sais pas si vous confirmez.
Oui. Interrogez-moi. On va faire comme ça. Si, posez-moi les questions.
La scénographie, les costumes, tout ça. Franchement, non, c'est un très beau spectacle, je crois.
Et une très belle distribution aussi avec donc Eric El Mostino, Sylvie Testu, Suzanne Clément et Jérôme Robard. C'est donc au théâtre Édouard VII, l'heureux stratagème de Marivaux dans une mise en scène de Ladislas Chola. Eric El Mostino est avec nous jusqu'à 18h et ça va pas être triste.
Courage, c'est le courage.
Comment ça, 18h? Mon amour, avant de voir où vendez-vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise.
La javanaise, Paris Hip Hop, pour Eric El Mostino,
qui vient
de nous dire, ah bon d'accord, moi j'ai le choix entre Gainsbourg ou Sardou depuis la famille Bélier, Djoubaka, programmation musicale, entend ça, il va venir débarquer, chers auditeurs, dans le studio d'une minute à l'autre. Eric El Mostino avec nous, qui est au théâtre Édouard VII en ce moment, dans l'heureux stratagème de Marivaux.
Et la pièce est à 20h.
Oui.
Si vous pouvez le dire, ça, parce que si les gens viennent à 21h, on aura c'est presque vrai. Fini déjà.
Mais attention, à 20h, à partir du 12 décembre, ce sera 21h.
Exact.
Il y a aussi le samedi.
Pourquoi un élément de langage.
Parce que, comme ça, ça sert
parce
à quoi
que vous connaissez un seul élément de promo, et même celui-là, vous ne le connaissez pas.
De quoi? Qu'on passe à 21h le 12 décembre? Mais arrêtez, je vous en prie. Arrêtez de me parler comme ça, hein. Je m'en vais.
Sinon, il y a le samedi, 16h et 20h, pour vous qui n'habitez pas Paris, qui vous peut-être venez donnée en week-end, le dimanche à 16h.
Les gens qui n'habitent pas Paris vont viennent au théâtre à Paris.
On dit ça, c'est un peu de démagogie pour les gens qui n'habitent pas Paris, n'est-ce pas, chers auditeurs? Alex, pour entourer Eric.
Je n'en peux plus. Je vais mettre une RTT. On a le droit. C'est possible. Mais bon, sont là pour me soutenir Constance, Guillaume Meurice et Juliette Arnault.
Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter avec Eric Elmosnino, dont on ne sait pas pourquoi il est là. Je pense qu'il sort un disque. Un disque de Marivaux.
À 20h.
En tout cas, le disque sort à 20h.
Putain, ça envoie maintenant. C'est bien.
C'est vous qui avez commencé.
D'accord, ça va.
Eric Elmosnino. Avant de filer au théâtre Édouard VII, on va vous soumettre trois petits sujets d'actualité.
Ah, pas déçu.
D'abord, les Européens se sont réveillés lundi en apprenant la faillite du voyagiste Thomas Cook, qui s'est produite durant la nuit. Alors les vacanciers, eux, se sont réveillés sans hôtel, sans avion, en attente d'être rapatriés. 600 000 rapatriés, on se croirait en temps de guerre, mais une guerre en maillot de bain. Comment se déroule cette situation inédite dans les aéroports?
Paris, là. Ici, hôtel, suite et fin.
Je suis désolée, mais j'ai un problème de surbooking et le Club Med est prioritaire.
Qu'est-ce qu'elle dit, là?
En principe, il y a un autre vol demain midi.
Comment ça, en principe?
Vous avez des bagages?
Attendez, mademoiselle, j'ai dû rentrer à Paris aujourd'hui.
Mais oui, je sais, madame, tout le monde me dit ça.
Et en cabine?
Non, je viens d'y mettre trois enfants.
Attendez, j'ai fait 6 mois d'hosto pour pas avoir un uniforme. Alors vous me tenez un billet, sinon je me fous sur les roues de l'avion.
Attendez,
le pilote.
J'ai une place pour toi, si tu veux.
Pour moi?
Oui, je me suis démerdé.
Patrick!
Qu'est-ce qu'il y a?
Regarde, il a une place pour moi.
Comment t'as eu ça, toi?
Carte de presse oblige, je dois rentrer pour témoigner, moi.
Patrick. Ah, vas-y, ça sert à rien qu'on reste tous les deux ici.
Ah bah c'est bien le bordel. C'est Casque Bleu, le film de Gérard Jugnot. C'est assez vertigineux cette nouvelle quand on s'est réveillé lundi matin. Quel aspect vous a le plus frappé dans ce sujet d'actualité?
Ah bah là, vous allez... Alors là, démerdez-vous. Déjà, quand il connaît le sujet, il est pas pointu.
J'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant que Thomas Cook, ça existait encore. Pour moi, c'est une espèce d'agence qui date des années 70,
mais
non?
Mais pire, 1841.
Ah, non, mais d'accord.
C'est la première.
C'est la toute première au monde.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc qui date d'un
siècle.
Mais
c'est vrai, c'est la plus ancienne au monde.
Et donc, c'est vrai que je faisais pas tellement attention à ce qui leur arrivait, à ce Thomas Cook. Bah, ça fait un peu truc de sardine. Quoi.
C'est-à-dire ça fait...
Bah, marque de non oui, macro
oui,
en boîte
vois,
ou
oui,
non
un Captain petit peu Cook. Captain voilà, Igloo.
On a le droit de dire des trucs comme ça.
On a le droit.
Ah ouais, oui,
on a le droit de tout dire.
Non mais sinon vrai. Sérieusement, ça a l'air terrible pour ces pauvres gens qui vont en vacances en mois de septembre. Et en même temps bon bah tant pis, j'arrête de dire en même temps surtout. Et donc je ne sais pas quoi, je m'en fous un peu. Ouais, honnêtement ouais.
Ça nous étonne. On pensait vraiment que vous aviez un avis pointu.
Non, vous aviez une solution. Mais on verra sur vos autres sujets, mais là, Thomas Cook.
Ah, les vacances comme ça, grandement organisées, c'est des choses que vous avez fait, vous avez vécu, vous essayez d'éviter.
Non, je fuis un peu ce genre de truc, pour être sérieusement. Mais c'est pas pour ça que je veux du mal aux gens qui partent en vacances organisées.
D'autant que c'est toujours triste quand ça touche aux vacances des gens qui sont les gens de la petite classe moyenne ou plutôt classe populaire, parce que Thomas Cook, c'est des voyages organisés. Les vacances, c'est sacré.
Ouais.
Ils travaillent comme des bœufs toute l'année. Moi, je trouve ça tristoun.
Puis, il y a des gens qui ont perdu leur emploi.
Clairement. Oui.
Ah, c'est ça, en fait, ils ont fait faillite, en fait. C'est
voilà.
Ça
ouais.
Oui, alors.
Eh ben, dis donc, vous êtes au taquet.
On va revenir au début du sujet.
Ils ont raté le tournant du web.
Ça s'appelait donc la faillite de Thomas Cook. Il y a un indice dans le titre du sujet.
Il y a un aspect pour lequel on peut rigoler un petit peu. C'est que les touristes britanniques, ils sont rapatriés, mais grâce à une directive européenne.
Peut-être les calmer un peu.
Là, on est d'accord, Eric Elmosnino. Bon, bah, si ça trouve, il y a peut-être des Français coincés et qui avaient leur place pour le théâtre Édouard VII.
Ah non, ça c'est moins drôle. Ouais.
Voilà, je savais que j'allais vous concerner par le sujet.
Il y avait un monsieur anglais dont le vrai nom était Thomas Cook. Et il avait réservé son voyage de noces via Thomas Cook et donc ils lui ont promis vraiment de faire grandiose parce que c'était quand même si rigolo. Et il est coincé.
Ça dépend.
Vrai,
ça.
Double peine. Oui, c'est vrai.
C'est une vanne.
Ah non.
Non.
Alors jamais.
Ouais, ça aurait pu.
C'est une brève.
D'accord.
On ne rigole pas avec
les brèves. C'est factuel.
Oui, non, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut trier le bon grain de livret dans cette émission. le bon grain, c'est constant.
Ah, j'aurais dit l'inverse.
Connaissez-vous l'espérance de vie d'une palourde?
C'est ça le bruit, c'est pour ça?
Il y a des effets spéciaux.
Non. En moyenne, 170 ans.
Mais non.
On a même retrouvé une palourde de 507 ans. Pourquoi je vous parle de ça? Je sais pas, cette émission, c'est la quatrième dimension. Donc allez-y.
Mais qui calcule l'âge des palourdes?
C'est une bonne question.
C'est pas con. C'est vrai que c'est pas
con. Je parle de ça parce que le 26 septembre, je pense qu'on m'a arrêté le bruit d'eau.
Est-ce qu'on dirait que tu pètes dans ton bain?
Non.
Si, 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 si.
Non, non,
un
non.
peu.
Je prends pas de bain, c'est
une émission sur France Inter, moi.
On est vraiment en direct là où je suis en train de faire un rêve bizarre.
Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Oui, j'ai travaillé. 507 ans.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que le 26 septembre, c'est la journée des grands-parents. Et jusqu'à présent, je ne crois pas avoir entendu parler d'une telle longévité chez les êtres humains. Pourquoi avons-nous une espérance de vie beaucoup moins importante que celle des palourdes? Eh bien tout simplement parce que toute notre vie, on nous casse les couilles. Ce qui entraîne une importante diminution de la durée de vie. La palourde, heureux mollusque qui bouffe tranquille son plancton, ne doit pas se lever tous les matins pour aller bosser. Elle n'a pas dans son restaurant d'entreprise à manger tous les midis en face d'un collègue de travail qui s'appelle Denis et qui ne parle que de sa voiture, une BX, en mâchant la bouche ouverte, la nourriture immonde de la cantine qui sent toujours le chou, alors que ça n'est jamais du chou. Elle ne doit pas attendre d'avoir ses 2500 semestres et ses 3 millions de points pour partir à la retraite et enfin pouvoir commencer à se détendre. Elle n'a pas à se forcer à dire merci quand ses collègues à la con lui offrent un cadeau de départ à la retraite nul en débouchant du mousse chaud.
Eh tiens, on t'a offert une tasse.
Oh bah dis donc.
Les effets spéciaux.
C'est un plus. C'est un plus. Ouais, ouais, c'est
accrochez-vous, accrochez-vous.
C'est immersif, je trouve.
La palourde, alors qu'elle vient... On arrête avec les bulles. La palourde, alors qu'elle vient de se mettre en pyjama, d'enlever ses lentilles et de prendre un bon bouquin pour enfin se relaxer, n'a pas à aller ouvrir la porte parce qu'on a sonné et que surprise, ce sont ses enfants qui débarquent avec les petits-enfants sous le bras et un petit air enfariné en disant « Papa, maman, super désolé, la nounou nous a lâchés, vous pouvez garder Guy Barnabé et Gisèle Sidonie quelques jours ?» Jean-Patrice est fatigué, on part se reposer à Courchevel quelques jours. On filoche, on est mal garé, bisous. La palourde peinarde dans son petit fond marin sableux, n'a pas à gérer les lardons de ses lardons. Non, elle fait des bulles tranquilles dans la vase. Personne ne... Non, arrête avec les bulles. Personne ne l'appelle Pépé ou Mémé. Elle vous sabotez mon travail.
Moi, je suis là, moi, je suis là. Merci. Moi et les trois auditeurs qui restent, on est là.
Moi, je m'en fous, je vais me réveiller, je le sais.
Elle ne doit pas rester souriante, même quand son petit enfant lui dit « Mais pourquoi est-ce que t'as de la barbe ?» Il n'existe aucun petit enfant palourde qui veut regarder 247 fois de suite le dessin animé. Les bébés palourdes ne dessinent pas sur les murs de la maison avec des gros feutres de toutes les couleurs parce que c'est joli les fleurs mémé sur les murs. Et puis j'ai aussi fait des dessins dans tes livres sans images alors que putain, les livres sans images, c'était la Pléiade. La palourde vit plus longtemps parce qu'elle a appris à dire « Non, non, je ne suis pas disponible samedi pour le déménagement. Non, je ne ferai pas l'effort d'écouter le récit de vos vacances plus longtemps parce que ça m'ennuie tellement que quand vous parlez, je vais tomber dans le coma. Non, le dernier, le petit dernier n'est pas doué en musique. Par pitié, brûlez-le avec son violon. » Bref, si vous voulez vivre vieux, apprenez à dire non et comme la palourde, buvez du vin blanc. Elle est vraiment nulle cette chute, donc j'en ai une deuxième nulle à vous proposer.
On
parce
choisira.
Que peut-être que ça fera moins plus, je ne sais pas. Dites donc, lorsque on vous dit que vous n'êtes pas commode, répondez que vous n'êtes pas un meuble.
C'est mieux.
Le vin blanc, c'était mieux, je crois.
Eric Elmosnino, car le vin blanc.
Merci, Constance. Oh, pardon.
À réécouter. Non, c'est parce que si oui, vous avez beaucoup ri, comme nous, à réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr.
Des gens sont avec nous sur par Jupiter, hashtag sur Twitter, et des gens pensent que notre ami Finkielkraut a laissé du VLD.
Du LSD.
Dans les locaux.
Eric Elmosnino avec nous. Il expose ses peintures. Au théâtre Édouard VII. Et c'est pas des croûtes, hein, c'est vachement bien. Il y a même Sylvie Testu aussi, Suzanne Clément et Jérôme Rambard.
La pièce est bien, la pièce est bien.
I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right.
Roy Head sur France Inter, au moment où Alex Vizorek me dit « La palourde a connu Marivaux, car elle vit 500 ans
bah ». Oui, elle a même connu les parents hein, de Marivaux.
Bah oui,
Marivonne, c'était non.
Ah ouais.
Voilà. Eric El Mosnino est avec nous dans une sorte de rêve. Peut-être on va réécouter l'émission demain et on va se dire elle a existé cette émission.
On ne le fera pas.
On y était.
Eric El Mosnino, il ne veut pas vous le dire parce que c'est quand même quelqu'un de pudique et de discret.
Oui.
Mais il est sur scène au théâtre Édouard VII dans l'heureux stratagème de Marivaux, mise en scène de Ladislas Chola qui a bien du courage de mettre en scène. Eric El Mosnino quand il est en forme.
On la salue depuis son burn-out.
Alors Eric, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice qui chaque matin part avec son micro.
Voilà,
bien. Faire du comique d'investigation, je dirais.
Bien,
oui. Voilà, de la flânerie rémunérée avec vos impôts.
Emmerder des gens, on peut dire aussi. Eh bien écoutez, ça y est, on est sauvés. On est sauvés, la planète est sauvée, parce que Macron, il a dit qu'on ne devait pas avoir un agenda commercial contraire aux agendas climatiques. Donc ça y est, il a pigé, il a dû se coincer une couille dans un livre de Piketty, mais en tout cas, il a compris, et ça c'est chouette. Donc tout le monde est soulagé, immédiatement, on est tous soulagés ici. Greta Thunberg est rentrée chez elle, elle bosse au Burger King pour financer ses études dans le nucléaire militaire. Nicolas Hulot a repris deux fois du steak de dauphin au petit déjeuner. Le chef Raoni a complètement pété les plombs, c'est un truc de fou, il a annoncé qu'il ouvrait un kebab à Ibiza. Bref, tout va bien. Sauf pour ceux qui font du business. Alors là, eux, ils font un petit peu la gueule. Il faut qu'ils s'adaptent. Je le sais parce que je suis allé les voir ce matin dans un grand congrès qui avait pour thème « Réinventons l'expérience business ». Hein, ça c'est vraiment, je dirais, la problématique qu'on a tous, hein. On l'a tous, hein. De toute façon, Juliette me disait encore ce matin, j'arrive pas à réinventer l'expérience business. Non, c'est l'expérience Guinness, je crois. Mais oui, c'est ça, voilà, bon, voilà. Enfin, je sais plus, bref. Mais c'est quand même quelque chose de passionnant, l'expérience business. Allons voir une première professionnelle du business. Est-ce qu'elle a réinventé l'expérience business?
On n'a pas réinventé l'expérience business. Je pense que l'expérience business est un peu réinventée toute seule parce que on a un écosystème où il y a plein d'entrepreneurs qui vendent sur leur plateforme, comme Amazon par exemple. Et ces entrepreneurs, ils ont un peu réinventé l'expérience business eux-mêmes. Du coup.
Mais vous, non.
Nous, on est venus pour les accompagner.
Et est-ce que c'est facile d'accompagner la réinvention de l'expérience business?
Non, c'est pas toujours facile parce qu'il faut toujours penser au next move.
Ah voilà, c'est ça qu'on fait pas nous. Parce que pour nous, move, c'est une station de radio. Hein. C'est la street cred un petit peu de la radio publique. Il y a des featuring avec Vincent Delerme, c'est cool. Je critique pas move, attention, hein, je critique pas les collègues. Déjà qu'à chaque fois que je parle des auditeurs de France Musique, je me fais attaquer à coups de déambulateur. Donc je fais vachement gaffe. Mais là, je veux juste dire que ça n'a rien à voir. Je vous rappelle qu'on parle d'expérience business. Est-ce que cet autre participant au congrès arrivait, lui, à la réinventer?
Oui, en quelque sorte, puisque...
Moyen, quoi.
L'expérience client, elle est...
L'expérience business ou l'expérience client?
L'expérience client,
oui. Oui, mais là, il faut réinventer l'expérience business.
Business? Ah ben, renouveler l'expérience business, c'est... On disrupte complètement...
On y vient.
Là, d'accord. Là, l'expérience business, c'est quelque chose qui disrupte, bien évidemment. Là, on est au niveau 1 de l'expérience business. Eric, vous suivez?
Oui.
Oui, non, suivez. Parce qu'ils vont vous remplacer par un hologramme au théâtre, un de ces quatre, sinon. Hein, déjà qu'en promo, à mon avis, ça se vaut. Bon, allez, on continue. On est toujours à fond sur l'autoroute de l'expérience business avec un concepteur de points de vente.
Et l'expérience business, bien sûr. Il s'agit de réinventer l'expérience business.
Ouais, est-ce que vous réinventez l'expérience business, mais à fond?
Alors, on pense avoir la capacité d'effectivement faire redécouvrir l'expérience business global à un client.
Je sens un doute quand même.
Comment je fais rentrer mon client, quelle est l'histoire que je lui raconte?
Ah là, ça c'est important, c'est important. Quelle est l'histoire qu'on raconte au client? Ça suivez, parce que le client il a déjà 12 paires de godasses, donc il vient pas pour en acheter une 13e, il vient pour qu'on lui raconte une histoire. Hein, c'est comme Alex quand il drague par exemple, hein, il invente une histoire à chaque fois. Oui, je suis doublure cascade de Rocco Siffredi. Voilà, il raconte une histoire, hein, il faut des Guillaume Musso de l'expérience business, il faut le faire rêver ce client.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça veut pas dire qu'on le pipote un peu?
Alors, tout dépend de qui raconte l'histoire. Je pense que si c'est moi qui la raconte, je n'ai pas pipoté. Maintenant, j'espère...
Et là, est-ce que vous n'êtes pas en train de me pipoter?
Je ne crois pas.
Non, je ne pense pas parce que moi, je les repère. Je les repère, ceux qui pipotent. par exemple, on voit bien que Macron, par exemple, il ne pipote pas. Macron, c'est un vrai écolo. Dans son Falcon, il y a même un ficus qui s'appelle Pascal Canfin. Donc, il ne pipote pas. En revanche, Greta Thunberg, on sait très bien qu'elle est achetée par le lobby du tofu. Elle a faim. Hein, ça se voit, elle a croisé Trump, elle a voulu le bouffer hier. D'ailleurs, elle, elle est dingue. Elle appelle carrément à moins faire de business. Il ne faut pas faire ça.
Non, il faut vendre, mais des bonnes choses qui durent longtemps. Et non, il faut vendre, il faut continuer à vendre et à produire.
Mais si on vend des produits qui durent plus longtemps, on va moins vendre au final.
On est d'accord.
Ah donc faut moins vendre.
Faut moins vendre.
Alors vous voyez-t-il l'inverse?
C'est possible.
Ah merde, attendez. Je crois qu'on s'est complètement paumé dans l'expérience business. Là. On l'a peut-être trop réinventé à ce moment-là. Alors le problème, c'est que l'indice de santé de notre société, c'est le PIB. Donc bon, autant mesurer notre taux de cholestérol en se plantant des couteaux dans les yeux. Parce que c'est la valeur ajoutée qui est importante. Et il faut acheter et racheter, ça s'appelle l'obsolescence programmée.
Effectivement, si la vaisselle, au lieu de durer 10 ans, il en dure 15, on va modifier, on va changer moins longtemps les lave-vaisselle.
Alors ça, c'est bien ou pas?
Bah, ça dépend de quel côté. Si on est consommateur, oui, c'est très bien. Si on est professionnel, ça l'est moins.
Et si on est les deux?
Vous me posez une colle.
Et on est bien emmerdé. Et peut-être bien qu'on a bâti notre société sur un modèle économique complètement con. Mais pendant que le bateau coule, la boutique reste ouverte. Hein. Après l'expérience business, réinventons l'expérience détresse.
Merci Guillaume Meurice. C'était une belle, bien belle excursion que vous avez fait ce matin.
Oui.
Merci
j'adore.
De nous en avoir fait profiter.
Ainsi
qu'à notre invité, Eric Elmosnino, qui, je rappelle, lance une ligne de vêtements. Donc au théâtre Édouard VII.
On va voir si vous allez venir jusqu'au bout comme ça. À m'inventer des trucs. On va voir, c'est bien.
C'est du mardi au vendredi à 21h. En revanche, le samedi 16h. Et alors le dimanche aussi.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça,
exactement. Je vérifiais quand même.
Non, c'est ça.
Oh, quelle ambiance, les amis. Quelle ambiance cette émission avec Eric Elmosnino, Alex.
Il est fatigant, mais on s'attache.
On en a un excellent souvenir. On est heureux de la réécouter. On peut la réécouter en boucle si on veut.
C'est vrai.
C'est que la première partie de l'émission que vous avez entendue. Parce qu'accrochez-vous pour la suite. Et je dirais même si vous êtes au volant, soyez prudent.
Et on ajoutera un petit fromet pour terminer.
Bah bien sûr, comme à chaque fois. Allez, on continue.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Allez, on va passer à ce deuxième sujet. Donc j'espère qu'il va vous botter. Ah, bah,
si, celui-là, oui.
Partie des supporters de foot se sent stigmatisée par le gouvernement qui envisage une tolérance zéro envers les propos homophobes dans les stades. Certains supporters parlent de mépris des élites pour le peuple des stades. Ils parlent d'ingérence aussi, dans un des rares lieux considéré comme un défouloir. Heureusement, il reste le sage. Le sage, vers lequel on peut se tourner, c'est-à-dire l'arbitre.
L'arbitre, c'était un sale con.
Alors
c'était un sale con, il disait, il y avait à un moment donné, il y avait un peu de gestité, alors que c'était même pas vrai.
Alors
maintenant, on était bien placé, on l'a vu. Ah, puis il a foutu un coup franc.
Ouais.
Il a foutu
un coup franc. J'ai pris une canette dans la gueule.
À un moment donné, il dit, ça va pas la tête. Je vais balancer le restant des frites, moi.
Et puis il y a le goal, il s'en est pris trois buts dans la tronche. Il y a un moment donné, j'ai gueulé, j'ai dit, t'as qu'à venir dans les gradins avec nous et tu les verras mieux rentrer.
Alors.
Ça fait vraiment chier, ça. Ils ont perdu. Et ça donne envie de tout péter. C'est vrai, hein, ça m'a donné tout envie de tout péter. Hein. C'est ce qu'on a fait.
Saladin dans les Deschiens, bien sûr,
oui,
Jérôme
Saladin,
Deschamps.
Voilà.
Et Macha Makaïev, bien sûr. Alors, c'est un article que nous avons trouvé dans Le Point. C'est rigolo. En tant qu'amateur de foot, est-ce que vous vous êtes fait un avis sur cette question, le gouvernement qui dit s'il y a des propos homophobes, si on dit Paris, on t'encule, bim, on arrête le match? Ça, vous avez entendu parler de ça?
Non, mais bien sûr, j'ai entendu parler, mais je sais pas quoi penser, que si vous voulez que je vous dise, moi, je sais pas.
Non, mais déjà, on va parler, partir du début. Vous aimez le foot, vous êtes supporter.
Ouais, ouais, ouais. Et moi, vous êtes homophobe.
J'aime bien le foot et je suis homophobe, donc en même temps, voilà. Je me sens à ma place dans un stade, moi. Pourquoi on vient m'emmerder?
Oui, alors là, c'est un cas particulier, on n'avait pas pensé
pour Marlène Schiappa. Je vais revoir toutes mes questions.
Non, c'est vrai, moi, j'allais beaucoup au stade, j'y vais moins, ça m'amuse un peu moins. Je préfère regarder ça tranquillou chez moi.
C'est lequel votre club?
Non, j'ai pas de club, moi.
Ah bon?
Non.
Quand on est supporter, on n'a pas de club.
Non, mais je suis pas supporter. J'aime voir du foot. J'aime regarder le foot, mais je suis pas supporter d'un club. Et je suis pas supporter de Paris. Ou j'ai aimé à différentes époques Saint-Étienne, Bastia, Marseille, voilà. Donc moi, j'aime les clubs français. J'aime l'équipe de France. J'aime le foot. Mais Après, je comprends, hein, c'est sûr que les mecs qui gueulent dans le stade et qui se défoulent, bon, ils viennent là pour ça. Donc si tu leur dis tu vas au stade, t'es gentil, tu t'assois et tu te tais,
est-ce qu'il y a pas un juste milieu à trouver
aussi, ouais. Non, mais bien sûr, on peut aussi supporter son équipe, t'es pas obligé de dire arbitre enculé ou je sais pas quoi. Mais je trouve que c'était tellement passé, enfin, dans l'espèce de folklore débile et un peu effectivement idiot.
Mais est-ce que c'est pas ça le problème?
Que de pointer ça maintenant, je trouve, je sais pas, ça me fait un peu, je trouve que ça fait l'effet inverse pour l'instant. Alors, est-ce qu'il faut tenir ce truc et dire non, faut pas lâcher? Et puis, effectivement, petit à petit, ça va, je sais pas, ça va peut-être disparaître. Mais est-ce que ça empêchera dans la rue de dire toi espèce d'enculé, t'es un connard? Enfin, ouais. Ça va rien empêcher.
Ici, on met le doigt sur l'homophobie parce que notamment l'insulte enculé, tout le monde est pas d'accord déjà. Ouais. Mais en Italie, c'est énormément les cris racistes.
Non, mais là, ça n'a rien à voir pour moi.
C'est là où le président de la Fédé a fait une distinction. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il vaut pas mieux complètement éduquer les tribunes pour que ça n'arrive plus?
Non, mais éduquer, il y a pas à éduquer. Les gens, ils savent très bien qu'on fait pas des cris de singe quand il y a une personne noire ou qu'on dit pas espèce d'enculé. Les gens, ils le savent que c'est une insulte. Le type, tu l'éduques, tu vas pas lui dire, tu sais que c'est pas, ah bon, moi je savais pas, je croyais que c'était sympa. Bah non.
Mais non, mais
il le sait. C'est juste que ça leur fait du bien d'insulter. Ça fait partie du jeu pour eux, entre guillemets. Après, on peut discuter là-dessus. On peut dire, bah non, c'est pas drôle, non, c'est pas, ça, non, il faut pas.
Les supporters de l'Inter Milan où joue Romelu Lukaku, donc belge mais d'origine congolaise, faisaient des cris de singe, ils s'en est plaint, et ils lui ont écrit une lettre pour dire qu'ils l'adoraient et qu'ils n'étaient pas racistes, c'était juste pour déstabiliser l'adversaire.
Après, ils sont revenus en arrière.
Oui, mais donc, sous-entendu, l'éducation, elle n'est pas complètement faite. Ils sont pas. Pour eux, c'était pas du racisme. C'est là où c'est compliqué.
Est-ce que le problème, c'est pas qu'ils sont cons?
Non, mais bien sûr que ça rend con. La foule, le groupe, ça rend idiot. On le sait, ça rend idiot. Ouais. Surtout si t'es un peu alcoolisé en plus. Enfin, il y a des facteurs un peu aggravants. Hein.
En effet.
C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît.
Nous-mêmes, on est six et on en fait pas une de bonne depuis.
Non, mais je sais pas. Mais vous, c'est quoi votre avis? Alors, je sais pas moi. Vous pensez quoi? Qu'il faut faire quoi? S'il y a 400 personnes qui disent oui, c'est enculé, il faut faire quoi? Tu les interdis de stage?
Moi, je pense que c'est pas mal
d'arrêter. 10 minutes. Moi, je dis, on arrête 10 minutes. 10 minutes.
Sinon, ça va énerver.
Constance veut prendre la parole.
Oui, j'ai une idée. Les gens qui sont en colère, ils ont besoin d'amour. Peut-être on leur fait un bisou et après on recommence le match.
Ah, ça peut marcher.
Mais si t'as un peu de temps devant toi, Constance, tu peux peut-être faire le tour des stades le samedi soir.
Oui, mais il faudrait une équipe et pas toute seule. Je pourrais pas. Ça va finir vraiment tard.
On a quand même le droit de relever que les insultes, majoritairement en France et dans tous les pays du monde, en fait, elles sont ou sexistes, ou homophobes, ou racistes. On peut aussi renouveler
comme
notre
stock
d'insultes.
Comme dans la cour d'école depuis la nuit des temps.
On peut renouveler, on peut décider qu'on renouvelle.
Ou la gauche, capitaine ad hoc.
Au lieu de dire enculé, tu dis entulé.
Ouais.
Comment vous faites?
Enculé. Ah, c'est malin ça. Enculé.
Tu changes juste une lettre.
C'est joli.
Si c'est vraiment le mot qui te fait du bien, vas-y, dis enculé.
Je voudrais pas qu'on puisse penser que je défends les
analogiques. C'est trop tard. Là, je vois sur le site.
Mais c'est vrai que je sais pas trop quoi penser. Pour l'instant, je vois rien d'efficace.
En tout cas, je suis sur le site de la billetterie du théâtre. Ça commande sec.
Ça baisse.
Il y a plus que moitié de salle pour ce soir.
Là où Eric Elmostino vend des voitures tous les soirs à partir de 20h. Eric Elmostino, revenons à la littérature, parce que c'est un sujet sur lequel c'est difficile de... c'est un sujet complexe.
Je crois que c'est bien qu'on en parle.
On peut pas mettre un micro sous tous les sièges, comme dit le Point, effectivement, c'est compliqué.
On a toujours écouté le Point. Ouais.
Bien sûr. Toujours. Et Juliette Arnaud.
Et surtout Juliette Arnaud. Le crime paye bien, on ne fait pas beaucoup d'heures et on voyage beaucoup. C'est une réplique d'un film, c'est Prends l'oseille et tire-toi, de Woody Allen. Il y a longtemps, hein, avant qu'ils soient mariés, avant qu'ils aient des enfants. Guillaume, calmez-vous. J'ai toujours pensé que c'était un projet de vie assez tentant, le crime. Alors, j'ai deux bémols pour moi-même le faire. À défaut d'être un être particulièrement moral, je suis assez froussarde. Et de toute façon, par mes qualifications, je n'ai pas accès à l'oseille. Le héros du jour, c'est-à-dire du roman, oui. Alors, il est trader à Wall Street. Autant dire, il est à très peu de mètres de la piscine de dollars de l'oncle Picsou. Donc, en tant que trader, il gagne pas mal sa vie, mais, et je le cite, exploiter ses semblables ne lui permet pas d'accéder au bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre héros ? Il va bafouer les lois de Wall Street, envoyer profondément chier le système capitaliste et son mauvais karma. Ça, c'est le but. Le moyen employé, eh ben, il va tout simplement détourner 17 millions à ses clients, gros clients, riches clients, tout en mettant au supplice sa grosse banque qu'il emploie, et tout en travaillant son bronzage. Oui, le bronzage, parce que Brian, le trader, se barre aux Caraïbes, achète un voilier et y installe son larcin sous la forme de gros sacs marins remplis de billets. Vous remarquerez que là, on n'est pas très loin de la piscine de l'oncle Picsou, en mieux. Sauf que les employeurs de Brian sont suffisamment mécontents de cette perte sèche, 17 millions quand même, pour envoyer des gens pour arrêter Brian et sa course frauduleuse à la liberté. Et comme il vaut mieux que les clients volés de Brian ne soient pas au courant que la banque dans laquelle ils placent leurs coquettes économies est un moulin, la banque n'envoie pas la police, mais un trio d'enquêteurs. Les voilà, il y a Si Yoon, qui est une chef courtière à Wall Street, ultra douée, sauf qu'elle est sur le point de se marier et que l'idée de son futur mariage lui donne envie de se désorbiter les yeux à la petite cuillère. C'est pas très bon signe quand tu penses à ton mariage. Et puis il y a Neil, qui est chargé des recouvrements spéciaux, ultra doué aussi, mais qui se remet pas trop trop bien de s'être fait plaquer par son mec. Et Piet, un détective nain, très doué, lui aussi, mais ébranlé par ses parties de jambes en l'air avec Siou, la fille dont on parlait au-dessus. Et nous voilà embarqués pour la mer des Caraïbes, sans devoir être rapatriés par l'agence Thomas Cook, ce qui est sympa, pour 250 pages méchamment troussées, 250 pages pour un roman à la fois noir, donc saignant, et humoristique, et torride. Oui, parce que Siou et Piet, ils profitent avec tellement d'ardeur de la chaleur et du vent coulis des Caraïbes que ça te donne toi-même envie d'avoir des relations sexuelles, et politiques, un portrait de Wall Street et des gens qui y bossent. Pour rappel, c'est de New York que Greta a piqué sa grosse colère, et tu comprends pourquoi, si bien sûr jusque-là t'avais un micro-doute. Et à la fin du livre, il n'y a vraiment pas de morale. Morale ou pas, crime ou pas, ce livre est un feel-good book. Un livre, tiens, je me sens bien quand je lis ce livre. Peut-être parce que ce livre te venge. Oui, un feel-good book, ça te venge. C'est ça le truc. Il te venge, par exemple, de ne pas avoir su où était la piscine d'oseille, et d'accepter que potentiellement jamais tu sauras si c'est possible, oui ou merde, de crawler dans des billets. Plus largement, il te venge momentanément de tes rêves d'enfant qu'on t'a volé. Greta, je te serre dans mes bras. Toi et ta longue tresse sage, quand tes yeux se crispent de rage et de chagrin, quand ton index tend pour pointer ceux qui ne font pas ce qu'il y a à faire. Venger momentanément, c'est peu. Mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, rappelez-nous les références de l'ouvrage, s'il vous plaît.
Alors, il s'appelle Coup de vent, il est signé par Marc Haskell, Smith et Chessé, et séché, j'y arriverai jamais de ma vie, Gallmeister.
Merci, merci Juliette, avec Eric Elmosnino qui fabrique de très jolis cendriers en rotin, qu'il vend à partir de 20h tous les jours au Théâtre Édouard VII, dans l'heureux stratagème de Marivaux. On va aborder ce dernier thème avec vous sur les tournages. Les maquilleuses sont les premières arrivées et souvent les dernières parties. Et il y a quelques années, certaines déclaraient qu'elles étaient les prolétaires du milieu du cinéma. Pourquoi pas un César du maquillage, demandait Guillaume Gallienne après son film Guillaume et les garçons à table, alors qu'il n'y aurait jamais eu la môme sans l'art du maquillage, monsieur.
Eric, c'est toi qui as annulé la fabrication des prothèses ? Tu me dis que tu veux faire un film sérieux et tu me sors des déguisements de train fantôme.
Non, attends. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais n'importe quoi. Non, c'est juste que là, j'ai pas le bon raccord, tu vois, au niveau du maquillage.
Qu'est-ce qui t'arrive, sérieux ? Tu veux faire quoi ? Tu veux faire la môme 2.0 ou la môme 2.5 s'attrape ?
La question se pose même pas. C'est juste que moi, c'est mon côté bricolo. J'aime bien.
Eh ben, tu sais quoi ? Va faire tes films chez Castorama.
Vous avez reconnu, Eric, en effet, Platane, la série d'Éric Judor. Ce serait quoi les métiers les moins bien considérés du cinéma ? Et est-ce que les maquilleuses sont dans le lot ?
Je crois pas que ce soit un métier qui soit pas considéré. C'est effectivement une catégorie qui n'a pas son César. Alors, je sais pas, est-ce que ça veut dire que ça... Ça veut dire que t'es pas considéré. Il y a par exemple la régie aussi qui fait un travail incroyable sur les tournages, les régisseurs qui sont eux pour le coup vraiment les premiers arrivés, les derniers partis, qui n'ont pas non plus de César. Enfin, je veux dire après.
Non, alors au-delà du César, c'est aussi le salaire qui est.
Ah d'accord.
Ouais, ça, plus les heures supplémentaires, etc.
Et alors encore moins, vous êtes encore moins a priori que quoi que les machinistes, les électros et tout ça.
Apparemment
ouais
oui.
Ah ouais apparemment. Ouais. Bah ok, c'est pas bien alors. Ouais. Bah non mais. Bah non, bah c'est, voilà, c'est tout.
C'est,
mais,
un, ouais, c'est tout. C'est un moment important. Enfin, c'est quoi comme moment pour un acteur qui va entrer en plateau, le moment du maquillage?
Maquillage, coiffure. Bah, en général, c'est les premiers. C'est les premières mains dans lesquelles on se met quand on arrive le matin. C'est hyper important, c'est vrai. Mmh. Ouais. C'est tu passes par eux, l'habillage, le maquillage, coiffure. Bon, moi personnellement, c'est pas c'est un moment que je préfère le faire le plus rapidement possible. Mais mais pour les actrices, apparemment, enfin pas apparemment, mais pour les actrices qui passent beaucoup plus de temps et certains rôles qui te demandent aussi, comme par exemple notre ami futur de, fumeur de gitane où je passais un paquet de temps, c'est hyper important d'avoir des gens bien et puis des gens avec qui aussi tu t'entends bien parce que tu passes du temps avec eux quoi. Ouais. Tu t'en remets quand même à eux. Hein.
On se confie à eux aussi. Enfin, si les maquilleuses devaient utiliser comme
le coiffeur
le...
quoi, ouais. C'est ça. Côté
non, mais
je sais pas.
Plus que ça, souvent dans les.
Plus que ça.
Ah oui, elles font aussi nounou, elles font un peu curé, elles font un peu psy, elles font un peu...
Tout ça pour le même salaire.
Tout ça pour le même salaire. C'est bien dans leurs bras que les actrices viennent pleurer.
Ouais, c'est possible, je sais pas.
Et vous, c'est un moment où vous êtes...
Non, mais de toute façon, même sans en rajouter, on n'a pas besoin de rajouter qu'elles font ça, ça, ça et ça pour qu'elles soient payées correctement. Oui, bien, je veux dire, par rapport au boulot qu'elles font, elles doivent être payées.
D'autant plus que les études coûtent
cher. Ils doivent être payés, pourquoi on dit elles d'ailleurs? Il y a des maquilleurs et des coiffeurs.
En majorité, c'est au maquillage, c'est
non,
des,
y a
c'est
beau,
des
y a,
filles.
Détrompez-vous.
Vous avez déjà croisé des maquilleurs hommes?
Ouais, mais bien sûr. Bah, vous plaisantez,
en majorité, c'est que ça reste quand même des femmes.
Sûrement, mais moi j'en connais beaucoup, hein, des coiffeurs maquilleurs hommes.
Oui.
Ouais, bien sûr.
Oui. Mais en majorité.
En fait, ils veulent absolument
son business truc, lui. D'accord.
Alors moi je mets les réponses dans les questions et eux, si vous répondez pas, vous donnent la réponse. Ouais. C'est un peu le système de l'émission. Éric Elmosnino, est-ce qu'on pourrait jouer avec vous? Vous serez d'accord?
Oui, avec plaisir.
On propose un sketch à l'invité quand c'est un acteur de salon. Et là, c'est pas n'importe quel rôle.
Non, bien sûr.
Vous êtes Greta Thunberg.
Greta Thunberg. Attention. Vous lui en voulez un peu, non? La petite suédoise.
On l'adore.
Ah ouais, vous l'aimez bien?
Ouais.
Ah d'accord.
De vous donner ce rôle-là, peut-être ça veut dire qu'on lui en veut un peu.
Mais
on vous fait confiance.
On savait pas avant.
D'accord.
Pour tenir le personnage, parce que peut-être il y a un biopic qui va se faire.
D'accord.
Après Gainsbourg vie héroïque, découvrirez Éric Elmosnino dans...
Le mec il sait même pas lire. Putain, troisième mot déjà.
Vie climatique, le biopic de Greta Thunberg.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood.
Celle qui défie les plus grands de la planète.
Mr. Trump, va falloir tout changer.
Qu'est-ce qu'elle a, la Chris Pauls?
Je ne suis pas une Chris Pauls. Je suis une citoyenne du monde qui veut sauver la planète.
Fake news!
Non, ce sont les scientifiques qui l'ont dit.
Fake scientist!
Mais que savez-vous de la planète?
Elle est plate.
Oh là là! Vous n'êtes pas allé à l'école.
Trop dangereux aux États-Unis, on pourrait me tirer dessus.
Je suis ici pour demander l'aide des plus grands pays comme les États-Unis.
Ah, ça, c'est un vrai news. America is great again.
Face à l'adversité, Greta a parfois pensé abandonner. Mais son combat était plus grand qu'elle et ses doutes.
Mais que faire? Les adultes ne m'écoutent pas.
Tiens bon, Greta.
Oh, qui me parle?
C'est moi.
Mais qui, moi? Je n'ai pas d'amis à part ma gourde en plastique.
Moi, la Terre. Merci pour tout ce que tu fais pour moi.
Ah bon?
Oui, tu as pris un bateau pour moi.
Ah ben... Bah oui.
Tu as aussi tu as porté plainte contre la France.
Et Macron n'était pas contente, Madame la Terre.
Bien fait, il dit partout qu'il est champion de moi.
J'en peux plus des humains. J'ai l'impression de tourner en rond.
Un petit peu comme moi.
Hein?
Non, laisse tomber. C'est de l'humour d'astrophysique.
Pardon, je ne maîtrise pas bien les secondes degrés.
Elle n'a jamais baissé les bras.
Mr. Trump. Êtes-vous là? Je vous présente la Terre.
Ok, où est son poussé?
Ah ben c'est élégant. Je pense que je vais ouvrir la faille de San Andreas un jour et ça va bien le calmer.
Alors, Mr. Trump, les écosystèmes entiers s'effondrent. Que comptez-vous faire contre cela?
Ah, le magas, Fifi Brandassier. Pour sauver les écosystèmes, je vais construire des McDonald's.
Ah, mais quel rapport avec la planète?
Aucun, mais j'aime bien manger leur hamburger.
Un jour... Va exploser.
Et moi aussi.
Greta, vie climatique,
bientôt dans toutes les salles climatisées de France.
Coupez la clim.
Ah non.
Merci Eric.
Merci. Je suis sur le site des réservations du théâtre. C'est bon, il n'y a plus personne ce soir.
Et je rappelle qu'Eric Elmosnino répare ta bagnole tous les soirs à 20h au théâtre Édouard VII dans l'heureux stratagème de Marivaux, mise en scène de Ladislas Chola, recommandé par Alex Vizorek, je tiens à le dire, avec Sylvie Testu, Suzanne Clément et Jérôme Robard. Vos magnifiques.
Et il y a trois autres acteurs aussi qui sont formidables.
Allez-y, dites-le. Hein,
Florent Simon et Jean-Yves. Là, j'ai pas leur nom de.
Que deux, là.
Nom de famille en.
Les maquilleuses qui sont chouettes aussi.
Ça, c'est un peu gênant, hein.
Arrêtez déjà, vous m'avez pourri le truc, là.
Demain.
En une heure.
Émission exceptionnelle. On a réécouté entièrement Eric Elmosnino, mais...
Petit cadeau.
Quand même.
Cerise sur le gâteau de 2020, un Frédéric Fromet, une chanson qui s'intitule « Broyé ». Et c'est sur les petits poussins.
Ah, c'est bien pour la première de l'année.
C'est triste, mais enfin, faut en parler aussi, quoi.
Eh bien, voici une jolie chanson sur le broyage des poussins, qui pourrait être interdit fin 2021. Il fallait donc un chanteur à poulettes. Alors, j'ai imaginé que M. Pokora, votre invité mardi prochain,
s'il ne vient pas à cause de vous.
Je t'ai broyé, broyé, broyé. J'ai broyé tes petites pattes, ton duvet, petit piou-piou, piou-piou écrabouillé. Je t'ai broyé, je t'ai broyé. Tu peux toujours piailler, faire genre que t'es mignon. T'es qu'un galinacé, c'est-à-dire un croupion. Si tu flippes mon coco, je te fais la promesse que tu finiras haut. KFC en nuggets, ça giclera, c'est sûr. Tu vas bien t'éclater, y aura du sang sur les murs, de la viande hachée, picoti picota. Est une comptine moisie, moi j'ai bien mieux pour toi que j'aplatis. Je t'ai broyé, broyé, broyé. Je t'ai broyé sans qu'interviennent les poulets, petit piou piou, piou piou écrabouillé. Je t'ai broyé, si je t'appelle mon poussin, c'est pour mieux t'écraser. T'as beau faire le malin, ton cul c'est du poulet. Si je te broie vivant, c'est pour entendre ton cri, ton si joli chant, de pupillou en bouillie. Y a pas que toi t'inquiète, y a aussi Porcinet à qui je coupe les roupettes sans l'anesthésier. Les trois petits cochons, c'est pas ce que tu sais, on te prend pour un jambon. Voici la vérité, je les ai castrés, castrés, castrés. J'ai castré à vif les petits porcelets, nouf, nouf, naf, naf, nif, nif, émasculé. Je les ai castrés, castrés, mon petit poussin, qu'est-ce tu croyais? Je te broierai jusqu'à fin 2021, plus vraisemblablement jusqu'à la Saint-Glinglin. C'est comme le tout le programme écolo, tu vois bien, je l'ai broyé.
Voilà. Frédéric Fromet. Merci. On sort de cette émission épuisée, rien que de l'avoir écoutée.
C'est pas faux.
Et demain, on a aussi deux invités, mais vraiment deux exceptionnels, deux marques.
Deux crèmes, voilà. Anna Mouglalis et Alex Baupin.
Alors à demain.
À demain.